6h03, lundi 30 novembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. D'ailleurs, demain, c'est le 1er. Et le 1er décembre, c'est la date limite pour la pose des pneus d'hiver. Je reçois des courriels garagistes qui m'expliquent qu'il y a pas mal de gens en retard cette année qui ont pris du temps à prendre un rendez-vous. Alors, soyez pas surpris de voir des gens se promener comme ça sur les routes avec leurs pneus quatre saisons. Maintenant, pour ce qui est de la météo, ben, c'est une journée de pluie et de vent. D'ailleurs, la pluie va commencer au cours de l'après-midi. On parle d'un premier 15 mm avec des vents jusqu'à 60 km/h, le maximum 7 degrés. Ça continue en soirée durant la nuit. Il y a un 5 à 10 mm qui s'ajoute. Encore là, des vents importants et des températures demeurent immuables à près de 7 degrés. Et demain, pour commencer la journée, on aura un peu de bruine. Ça demeure nuageux avec faible risque d'averse. Moins de vent, cependant, et maximum demain autour de 14 degrés. On est quand même 1er décembre. Il y a de la pluie intermittente qui est prévue pour mercredi avec 4 degrés. Et finalement, ben, il y aura un peu de soleil, température plus froide jeudi, donc dégagement, maximum de 1 degré. Avant de faire le point sur la COVID comme telle, vous avez sans doute été témoin, comme moi, d'événements, je dirais, quasi surréalistes en fin de semaine. D'abord, je ne veux pas trop insister sur le phénomène des pas de masques, là, puis ceux qui contestent, puis qui veulent envahir des centres commerciaux, puis la manifestation avec des fautes de français multiples sur les pancartes. Ça demeure quand même un phénomène qui est marginal. Que des gens soient tannés de certaines mesures, je pense à des restaurateurs, je pense à des proprios de gym, évidemment. D'ailleurs, il y en a qui demandent justement aujourd'hui au gouvernement de permettre la rouverture des établissements. Et ils sont plusieurs signataires de restaurants, des franchisés, des gens qui, par exemple, ont leur propre restaurant et qui disent, ben là, ça suffit. Il faut absolument nous permettre de reprendre nos activités. Il n'y a pas eu de cas de relié à la COVID. L'argument du gouvernement, c'est toujours le même, là, de la santé publique, c'est qu'on ne veut pas vous sortir de chez vous, donc on ne veut pas vous donner d'occasion de sortir. Sauf que pour les restaurateurs, c'est une période qui est évidemment cruciale. Alors, je dis ça parce que on accorde beaucoup d'importance, peut-être un peu trop, puis on va se blâmer nous-mêmes, les médias, là, face aux imbéciles qui organisent ces rassemblements. Ils sont une poignée, ils sont peu nombreux, puis tout ce qui les intéresse, c'est de faire les comiques dans des lieux publics, puis espérer là, qu'ils reçoivent une contravention. D'ailleurs, on le voyait dans le Journal de Montréal, là, ceux qui ont contesté jusqu'ici, ont quand même perdu leur cause, pour la plupart, la grande majorité. Deuxièmement, tu sais, ils s'en vont manifester chez Legault, ils sont à Westmount, ils n'habitent pas là, ils se trompent. T'sais. Alors là, ça devient une nouvelle. Les pas de masse se sont trompés d'adresse. T'sais, c'est quand même particulier. Il y a eu cette photo, là, c'est l'autre camp, en fin de semaine, je vois ça hier. Là, tu as une tablée de Jean Cordé avec le doigt d'honneur, qui ont l'air d'être sur le party, tu te dis, mais ça se peut pas. Puis là, les gens se mettent à réagir en disant, ce sont des imbéciles, comment ça se fait que... Bon, or, tu découvres que c'est une photo qui a été prise pendant la Thanksgiving aux États-Unis, je pense, c'est la semaine dernière. Fin des émissions. Et le dernier volet, ben, ça concerne François Legault qui a présenté une liste de suggestions de lecture. Et c'est à la demande de l'Association des libraires du Québec. Okay? Legault, sur Twitter, partage ses goûts. C'est quelqu'un qui aime lire. Et il fait des suggestions en disant « J'ai lu tel bouquin, j'ai aimé ça. » Il a même fait une vidéo pour l'Association des libraires du Québec. Et là, évidemment, il y a des gens qui lèvent la main. Il a osé proposer le livre de Mathieu Bock-Côté sur le politiquement correct. Puis là, on dit, bien, Legault ne reconnaît pas le racisme systémique. Et là, on reparle. On parle de quelqu'un qui suggère des livres. Et là, disons, les pâtes molles de l'Association des libraires ont dit, oh non, 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 il y a des plaintes. Non, 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 non. Disons, les peu de colonnes, là, tu sais, les aplaventeries. On dit, bien là, on va enlever ses suggestions. Puis on va faire une mise en garde concernant sa vidéo en disant que ça ne partage pas nécessairement ce que nous, on pense, que ça n'engage que lui. Hey, sérieusement, là, vous êtes allé demander au premier ministre du Québec c'est quoi ses goûts de lecture, puis là, vous décidez, parce que trois, quatre braillards qui se font aller, puis là, dit non, non, on va enlever ça. C'est vraiment pathétique. Tu sais, c'est le genre de truc, tu dis, mais ça se peut pas. Tu sais, tu veux faire la promotion des produits culturels québécois, des livres. T'aimes pas l'auteur, t'aimes pas le livre. Le PM est pas dans ton spectre de pensée. Là, tu le savais pas avant, ça? Pourquoi t'es allé demander si tu veux pas avoir ces suggestions? Bref, c'est pas fort. Maintenant, COVID. COVID, bon, il y a plusieurs choses. D'ailleurs, si vous voulez comprendre ce que c'est que la COVID, il y a un texte très, très révélateur ce matin dans The Gazette, où on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région fortement touchée. Et on raconte l'histoire d'un monsieur de 75 ans qui a eu la COVID. Il s'appelle André Tremblay. C'est quelqu'un d'assez connu dans son coin, qui était dans l'immobilier, 75 ans. Et on le voit à différents moments dans sa vie sur sa page Facebook. Et là, il y a quoi, quelques semaines, il a expliqué, c'était le 10 novembre, qu'il avait testé positif à la COVID. Après ça, le 12, il a expliqué qu'il avait été hospitalisé, mais que sa condition était stable. Le 14, toujours sur Facebook, ceux qui pensent que la COVID c'est une farce devraient me parler. Il a été transféré par ambulance à Chicoutimi. Et le dernier message qu'il a envoyé, c'est le 15 novembre à 9h32 le matin, en disant que il était fatigué, qu'il n'était pas si vieux que ça, mais que le virus avait progressé rapidement. Et finalement, il a été diagnostiqué donc avec la COVID et il en est décédé. Il a montré là, sur Facebook toutes les étapes à quel point ça frappe. Fait que ceux qui pensent que c'est encore l'équivalent d'une grippe, on le sait, puis je ne veux pas repartir ça ce matin parce que ça ne m'intéresse pas. Mais quiconque travaille dans les hôpitaux, travaille dans les soins de santé, capable de mesurer ça. Alors, ça nous amène à dire quoi? C'est que les chiffres demeurent élevés. On n'est pas dans des cas aussi sérieux que le printemps dernier, mais c'est préoccupant. C'est préoccupant parce que ça ne baisse pas. Et là, je le sais, le placotage de fin de semaine, c'est qu'est-ce qu'on fait à Noël? À quel moment Québec va prendre sa décision? Je ne sais pas ça sera quoi la décision de Québec, pour tout vous dire. Avez-vous vraiment besoin de ça? Les gens m'ont écrit en fin de semaine, puis je voyais dans le Journal de Montréal, c'est à peu près le même genre de réflexion. Je pense que le monde a pris sa décision. Il y a un bon nombre de gens qui décident de fêter ça dans la bulle, presque pas d'amis, ou vraiment là, très, très limité. Beaucoup d'activités extérieures, ça m'a un peu surpris parce qu'on ne sait pas quelle sera la météo. Là, aujourd'hui, tu dis, ben, je fais ça avec un chauffe-terrasse ou un bon manteau. J'ai des amis qui font des feux, alors peut-être, mais rendu à le 24 puis le 25, on fait quoi? Alors, est-ce que Québec va interdire les rassemblements? De toute façon, là, ça, c'est l'autre côté avec les rassemblements qu'on a. Chez le pasteur, tu envoies deux autos de police, puis là, on dit, ben, le message de la santé publique n'est pas clair. Tu parles à la santé publique, puis ils te répondent, ben, on ne comprend pas c'est quoi, pourquoi la police ne donne pas les constats. Il faut, à un moment donné, être cohérent face aux gens qui défient. Tu ne peux pas être 50, 60, 80, 100, puis te promener pas de masque. Tu sais, c'est frustrant pour les gens qui respectent et qui ont, par exemple, il y a un restaurateur qui m'écrit régulièrement, il dit, moi, je respecte. Il dit, je suis dans le trouble, là. Mais il dit, quand je vois que la police fait rien, parce qu'il y a un rassemblement, parce que ça vient m'irriter. Et ça me donne le goût, pardon, de décrocher. Peut-être. Alors, il y en a eu encore, donc, de ces fameux attroupements au cours de la fin de semaine. Parlons des écoles, comme le veut la tradition. Le gouvernement souvent annonce ses affaires le vendredi après-midi. Tu comprends? On souhaite que ça disparaisse durant la fin de semaine. On a appris quoi? Qu'il y avait quoi? Une école sur deux où il n'y a pas de système de ventilation. Et je pense que c'est assez renversant de voir que ça a pris tout ce temps. Tout ce temps pour en arriver avec ce tableau. Il me semble que c'est pas si compliqué que ça là, de déterminer. Y a-t-il un système de ventilation? Il n'y en a pas. Quel est le niveau d'entretien? Quel est l'âge du système? Et c'est important de ramener une qualité d'air dans les écoles. Puis là, je sais qu'il y a plein de campagnes qui s'organisent. Je regardais Jasmin Roy qui, lui, demande aux gens de faire des dons. T'sais, mais là, tu disais un peu, là. On va faire des dons pour acheter des appareils de ventilation dans les classes. C'est au gouvernement à payer pour ça, là. Je veux dire, on paye des taxes. Puis là, il ne s'agit pas de dire, ben oui, mais là, ça a été négligé. On sait tout ça, là. On sait tout ça que ça a été négligé. Le point, c'est que me semble qu'on devrait peut-être procéder, puis les installer, puis d'essayer de rendre ça, disons, fonctionnel pour les profs puis les étudiants. En parlant des écoles à New York, là, ils reprennent dans quelques jours, dans les écoles primaires, là, le maire de Blasio, ça incombe à la mairie, là, cette responsabilité. Alors, ils ont décidé comme ça de participer à un retour, parce que beaucoup de parents aussi l'exigent. Mais il y a des villes aux États-Unis où il n'y a pas eu de cours, de classe en présentiel depuis le mois de mars. Zéro. Et ici, il y a encore beaucoup de questions sur les examens au collège, à l'université, des gens qui se disent « mais pourquoi pas le faire à distance plutôt que de nous regrouper si on veut respecter cette directive, ce contrat social là, qui est de dire « ben on prend une quarantaine puis on s'isole avant comme tel, si on veut, la période de 4 jours là, où on peut faire certains rassemblements ». La frontière canadienne, ben, fallait s'y attendre. C'est prolongé jusqu'au 21 janvier. Puis à chaque fois, on prolonge. Alors, combien de temps encore? Ça reste à voir. Et pour ce qui est des vaccins, la compagnie Moderna dit que le Canada n'est pas parmi les premiers, mais que le Canada fait partie des gens qui sont sur la liste. Là, il y a tout ce débat, là. Premier constat qu'on fait, c'est que c'est un peu logique que les pays qui ont payé et qui ont déjà une infrastructure manufacturière ont accès au vaccin. On serait les premiers si on avait investi. Puis le Canada, depuis des années, n'a pas mis beaucoup d'argent dans la recherche. Puis les pharma se sont désintéressés du Canada comme site de production. Alors, en gros, on va avoir nos vaccins quelques mois après les autres. Et ça, je pense, c'est le premier constat. Deuxièmement, moi, ce qui me fatigue depuis plusieurs jours, ce sont les tests rapides qui existent. Et le fédéral a livré pour plus d'un million de tests à Québec. Puis Québec, sa réponse, c'est dire « Ouais, mais là, il faut faire des tests. Ouais, mais ils sont approuvés par Santé Canada. Ouais, peut-être, mais nous, on veut voir s'ils sont bons. » Puis ces tests rapides sont peut-être moins précis, mais on peut les utiliser dans des endroits plus éloignés où il n'y a pas de laboratoire. Bref, si Santé Canada l'a approuvé, ça doit servir un peu, me semble. Ça a l'air que là, il faut attendre. Puis quand Santé Canada va approuver le vaccin, va-tu falloir attendre aussi qu'on fasse des tests. Il y a quelque chose que j'ai de la misère à saisir avec la santé publique sur des messages qui sont contradictoires, sur des délais avant de prendre quand même des décisions. Aujourd'hui, c'est l'énoncé économique du gouvernement fédéral. Et ça veut dire que le déficit pourrait passer à environ 400 milliards de dollars. On avait prévu 340, bien visiblement, ça va être nettement plus. C'est le dépôt aussi aujourd'hui d'un rapport préliminaire. Les premières conclusions, observations de la commission Laurent sur les enfants au Québec et toile de fond, bien sûr, la DPJ. Il y a eu quelques éléments des recommandations. Et je ne suis pas étonné, parce que Régine Laurent l'a répété souvent, c'est de voir après comment ça s'articule. C'est-à-dire que les enfants doivent devenir le point de référence. On ne tient pas compte des intérêts des parents, des adultes. On tient compte de l'intérêt de l'enfant. Puis ça se peut que dans l'intérêt de l'enfant, les parents biologiques, pour toutes sortes de raisons, soient écartés. Puis ça se peut aussi que des liens doivent être maintenus. Et l'autre constat qui est important, c'est que, tout en reconnaissant les problèmes récurrents de la DPJ, les réformes qui ont, disons, affecté l'organisation, c'est pas vrai que c'est le gouvernement tout seul qui va s'occuper des enfants maltraités. Il y a des cas d'horreur, il va toujours malheureusement en avoir, qui nous apparaissent, comme cet ado la semaine passée qui a été battu puis négligé, la petite fille de Granby qui est morte, des ordonnances où il n'y a pas de suivi. C'est vrai, tout ça est là. Mais c'est aux adultes aussi de voir ce qui arrive avec des enfants qui sont dans votre environnement. Cette espèce de responsabilité de s'assurer que l'enfant a ce qu'il faut pour être en sécurité, puis que son développement ne soit pas compromis, là, pour reprendre l'expression. Alors, il y aura ce point de presse, si on veut, de Régine Laurent un peu plus tard ce matin. Puis on me dit que Québec aurait décidé d'enquêter sur le casino Tintin. Beaucoup de courriels en fin de semaine, des croupiers qui m'écrivent. Voyons donc, Charles-Can, c'est fini l'époque. Je vais juste vous dire une chose. D'abord, les organisations criminelles ont besoin de blanchir de l'argent. Deuxièmement, les organisations criminelles s'ajustent, s'adaptent, se raffinent. Et je n'ai pas besoin d'avoir la liste des trucs. Mais quand vous avez, et c'est vrai à travers le monde, les casinos, ce sont des endroits par excellence pour être capable de blanchir des sommes d'argent. Par toutes sortes de stratagèmes. Et moi, je pense que ça a fait l'affaire de Québec pendant des décennies, là, depuis l'ouverture du casino, parce que c'était pas trop gênant. Sauf que là, t'as l'air fou de donner des cadeaux à des mafieux en disant, ben ils s'en viennent au casino. Puis c'est sûr qu'ils vont perdre de l'argent sur le lot, là. Ils vont jouer. Mais l'idée, c'est évidemment d'être capable de repartir avec une preuve légale, si on veut, d'un certain montant d'argent. Alors, il paraît que le ministre des Finances va annoncer ça aujourd'hui. Également, il y a plus d'un milliard en 10 ans pour l'industrie porcine qui sera, semble-t-il, payée. Donc, une filière orientée essentiellement vers l'exportation qui a obtenu $1 milliard des gouvernements. Alors, c'est dans le Devoir que vous retrouvez ça ce matin. Il y a un plan flou également pour compenser la facture des gaz à effet de serre si jamais on va de l'avant avec le projet GNL Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, vous pourrez aussi lire ça ce matin. En France, ça brasse beaucoup en France. Et on a vu ce producteur se faire tabasser. Les policiers ont été interpellés. Il y a eu des affrontements directs. La violence policière est très, je dirais, visible. Mais la violence également des manifestants, de ceux qui veulent casser de la police, ceux qui veulent provoquer des affrontements, ça demeure aussi extrêmement troublant dans plusieurs villes. Là. Le pays est le théâtre d'affrontements. Tout ça au nom des manifestations pour les libertés. Puis là, vous avez cet homme-là qui se fait battre et également des gens qui ne veulent plus de confinement, qui ne veulent plus être obligés de s'identifier quand ils se déplacent, qui veulent une reprise aussi des activités économiques. Alors, ça nous amène à 6h22. Allons voir ce qui se passe sur la 40.